RCF.
Depuis l'exploration de la comète Churyumov-Gerasimenko par les sondes Philae et Rosetta, nous pensions bien connaître, Joël, la taille des noyaux de comètes.
Oui, une grosse cacahuète de glace et de poussière de quelques kilomètres de dimension.
C'est ça, Joël. L'exploration spatiale a confirmé le modèle proposé dès 1950 par l'astronome américain Whipple. Les noyaux de comètes sont d'énormes boules de neige très très sales. Des objets parfois constitués de plusieurs noyaux assemblés ensemble, de glace, de poussière et de gaz congelés, piégés dans la masse de glace.
Et c'est bien ce que montre le film Armageddon avec Bruce Willis pour forer la glace.
Oui, oui, c'est ça. Et on s'est longtemps demandé quelle était la masse d'un noyau de comète. L'étude des perturbations occasionnées par les comètes sur la marge des planètes n'a rien donné. Les effets d'attraction ont toujours été bien trop insignifiants, beaucoup trop petits pour pouvoir être observés.
Alors, quand une comète est capturée par la planète Jupiter, le mouvement de ses satellites est-il modifié ?
Non. Bon. Lorsque la comète Brooks 2 ou la comète Lexel sont passées très près d'eux, rien n'a été observé.
Ouais, ça veut dire que l'attraction exercée par ces comètes était négligeable.
Oui. De ces résultats négatifs, on a estimé une limite supérieure à la masse. Pour la comète Lexel, on trouve moins de 6 millions de milliards de tonnes, soit 1/1000ème de la masse de la Terre. Mais l'examen des perturbations mutuelles qu'ont exercées l'un sur l'autre les deux éléments de la comète Biela après qu'elle se soit brisée en deux ont donné une valeur 10 fois plus petite encore, soit 600 000 milliards de tonnes. La même méthode appliquée aux deux fragments issus de la comète Virtanen a donné une masse peu supérieure à 100 milliards de tonnes, ce qui correspond à un objet glaciaire de 5 km de diamètre.
Et la comète Chury, et grâce à la sonde Rosetta mise en orbite autour, on a pu calculer sa masse, je suppose.
Alors oui, le noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko pèse 10 milliards de tonnes pour un volume de 25 kilomètres cubes.
Mais 10 milliards de tonnes, c'est pas rien quand même. Connaît-on des noyaux de comètes beaucoup plus gros ?
Oui, parmi les comètes qui nous ont rendu visite ces dernières décennies, la belle comète Albop, que l'on a tous observée en 1997, et qui fut l'une des comètes les plus brillantes du XXe siècle, possédait, semble-t-il, un noyau d'une taille supérieure à 30 kilomètres.
Eh oui, la comète Albop, je me souviens l'avoir observée.
Oui, au XIXe siècle, la comète la plus brillante fut la grande comète de 1811. On estime aujourd'hui que son noyau devait mesurer entre 30 et 40 kilomètres.
C'est donc la taille des plus gros noyaux de comètes.
Alors, on le pensait jusqu'ici, Joël, mais récemment, en étudiant d'anciennes données du DES, le Dark Energy Survey, un programme visant à élucider le mystère de la matière noire, de l'énergie noire, l'énergie sombre, des astronomes ont débusqué un objet céleste photographié en 2014, qui s'appelle 2014 UN 271. Or, cet objet serait une comète d'une taille exceptionnelle.
Ah bon, peux-tu nous en dire plus ? C'est quoi ce programme de recherche ?
Alors, DES est un programme international d'observation dans le domaine des ondes visibles et de l'infrarouge, visant à cartographier des centaines de millions de galaxies dans le but de mieux comprendre la nature de la mystérieuse énergie sombre.
Mais apparemment, il peut aussi repérer des comètes lointaine.
Oui, la comète C-2014-UN-271 est dénommée aujourd'hui comète Bernardinelli-Bernstein. C'est une comète issue de l'immense réservoir de comètes qui englobe le système solaire comme une vaste coquille sphérique et qui s'étend jusqu'à plus d'une année-lumière du Soleil. Ce sont deux astronomes, Pedro Bernardinelli et Gary Bernstein de l'Université de Pennsylvanie, qui ont trouvé cet objet dans des images d'archives du Dark Energy Survey. Et il pourrait s'agir, Joël, de la plus grosse comète observée à ce jour. Dans un premier temps, l'objet ne montrait aucune activité cométaire, ni queue, ni chevelure, ni nébulosité. Il fut alors désigné 2014 UN 271 comme une planète mineure, un objet glacé lointain. C'est une fois son activité cométaire reconnue qu'il a changé de désignation.
Alors, où se trouve cette comète ? Loin du Soleil, je suppose.
Alors, sur les images d'octobre 2014, elle se trouvait à 29 fois la distance de la Terre au Soleil, c'est-à-dire presque aussi loin que la planète Neptune, hein, la planète principale la plus lointaine. Mais 7 ans plus tard, c'est-à-dire le 24 juin de cette année, donc, elle est à la distance de la planète Uranus et continue de se rapprocher du Soleil.
Et va-t-elle constituer un danger pour la Terre ?
Alors non, Joël. Heureusement, son périhélie, c'est-à-dire le point de son orbite le plus proche du Soleil, reste encore au-delà de 10 unités astronomiques, soit 1,6 milliard de kilomètres, un peu au-delà de l'orbite de la planète Saturne.
Oui. Et quand atteindra-t-elle son périphélie ?
Le périhélie.
Périhélie, je dis périphélie.
En juin 2031, les observations suggèrent un objet d'environ 100 km de diamètre, mais peut-être même, disent certains, plus de 300 km.
Ah, c'est beaucoup plus que les plus grosses comètes, hein. Ce qui m'étonne, c'est que, à cette distance, il peut déjà y avoir une activité. Si loin du Soleil, la glace devrait rester congelée.
Alors, c'est vrai, Joël. Mais les comètes renferment aussi de nombreux gaz très volatiles, comme le monoxyde de carbone ou le dioxyde de carbone, qui forment une nébulosité autour du noyau, même à des distances très éloignées du Soleil. Le dégazage a été rapporté par Tim Lister de l'université de Las Cumbres à Goleta en Californie et par Luca Bozzi depuis un observatoire de Namibie. La distance de la comète était supérieure à 20 fois celle de la Terre au Soleil, soit 3,02 milliards de kilomètres. Mais on a déjà observé de l'activité cométaire à des distances plus grandes encore pour quelques rares comètes, comme la comète Boattini.
Ah, je suppose que cette comète met énormément de temps à parcourir son orbite.
Alors, les études montrent qu'il lui a fallu environ 1,5 million d'années pour décrire la moitié de son orbite elliptique depuis sa distance la plus éloignée, c'est-à-dire son aphélie.
Et qui se trouvait à quelle distance de nous d'ailleurs ?
Eh bien, quelque part dans l'immense réservoir que constitue le nuage de Oort, à près de 40 000 unités astronomiques.
Alors 40 000 unités astronomiques, ça fait plus d'une demi-année lumière, ça.
Oui, Joël, 0,6, si tu comptes vite.
Ouais, je compte vite, moi.
Elle atteindra son périhélie vers le 23 janvier 2031, à peine au-delà de l'orbite de la planète Saturne.
Oui, et il lui faudra encore un million et demi d'années pour retourner d'où elle vient.
Eh bien non, pas exactement, car au cours de la traversée du système solaire, la comète voit son mouvement fortement perturbé, altéré par les planètes géantes. Son orbite modifiée aura une période de révolution de 4,5 millions d'années et enverra la comète cette fois-ci à 55 000 unités astronomiques du Soleil, soit presque 90% d'une année-lumière.
Bref, on n'est pas près de la revoir. Alors, à propos, peut-on l'observer qu'un instrument d'amateur ?
Alors, observons d'abord que sa déclinaison actuelle est de 47 degrés sous l'équateur, céleste. Elle n'est donc visible que depuis l'hémisphère austral. Et son éclat devrait, sauf imprévu, rester en deçà de celui de la petite planète Pluton, ce qui en fait un objet inaccessible aux amateurs, même très bien équipés.
Alors cette comète est donc une surprise. Je suppose qu'avant sa découverte, personne ne supposait qu'il pouvait exister des objets de cette taille ayant une activité cométaire.
Eh bien, détrompe-toi, Joël. Hein ? Dans notre système solaire, il existe déjà une famille de petits corps glacés qui gravitent pour la plupart autour du Soleil, entre les orbites de la planète Jupiter et celle de Neptune. Ces objets sont appelés les centaures et le plus ancien a été découvert en 1920. Il porte le nom d'Hidalgo.
Non, la mère de Paris a déjà sa planète.
Alors longtemps, l'objet céleste 944 Hidalgo a été considéré comme un astéroïde comme les autres. Il mesure environ 40 kilomètres et décrit sa révolution autour du Soleil en moins de 14 ans. Mais le premier centaure reconnu comme tel fut 2060 Chiron, découvert en 1977 par Charles Koval. On crut d'abord être en présence d'un nouveau satellite de Saturne, puis d'un astéroïde, mais à l'approche de son périhélie, il développa une queue cométaire et fut alors reclassé comme comète. Il est désormais classé à la fois comme un astéroïde et comme une comète, comme d'ailleurs quelques-uns des autres centaures découverts depuis.
Et Chiron, il fait quelle taille ?
Quelques 166 kilomètres de diamètre et il gravite entre Saturne et Uranus.
Ouais, sa taille est quand même proche de celle de la comète géante.
C'est vrai. Un autre centaure est 5145 Pholos. Pholos était comme Chiron un centaure de la mythologie grecque. Découvert en 1992, il mesure 190 kilomètres de diamètre et son orbite croise celle des quatre planètes géantes gazeuses. Il existe un autre centaure dont nous avons déjà parlé dans Juste Ciel, c'est Chariclo.
Ah oui, celui qui possède un petit système d'anneaux.
Oui, c'est ça. Son diamètre atteint 302 kilomètres. On notera que si les centaures gravitent tous entre l'orbite de Jupiter et celle de Neptune, seuls certains d'entre eux montrent une activité cométaire, comme Chiron, Échéclos ou Chariclo. Ces derniers montrent de fréquentes variations d'éclat, qui s'expliquent si l'on suppose que les centaures renferment de nombreuses cavités remplies de gaz sous pression et de matériaux cométaires volatiles. Quand la pression de dioxyde de carbone augmente au voisinage de la surface, il se produit une explosion locale, un geyser de gaz et de poussière. Une autre caractéristique rapproche les centaures des comètes.
Laquelle ?
Eh bien, comme les comètes, les centaures ne gravitent pas sur des orbites stables, à l'échelle de la centaine de milliers d'années. Des études semblent indiquer que leurs orbites constituent une phase transitoire entre les orbites des objets de la ceinture de Kuiper et celles des comètes à courte période. Pour certains chercheurs, d'ailleurs, les centaures seraient d'anciens objets de la ceinture de Kuiper dont l'orbite aurait été perturbée par la présence de la planète géante Neptune.
Alors, est-ce que les engins spatiaux sont-ils approchés d'un centaure ?
Alors, pas encore, même si l'on considère que Phébé, l'une des lunes de la planète Saturne, photographiée par la sonde Cassini en 2004, pourrait être un centaure autrefois capturé. L'orbite des centaures est chaotique, instable. Elle évolue rapidement à l'approche d'une des planètes géantes du système solaire. Il est même possible que certains centaures soient parfois éjectés du système solaire.
Mais par sa taille et son activité, la nouvelle comète ressemble beaucoup à un centaure.
Oui, sauf que son orbite est très différente parce que sa durée de révolution se chiffre en millions d'années et non en dizaines d'années. En fait, elle serait comme un centaure, mais venu du nuage de Oort et non pas de la ceinture de Kuiper. Une chose est sûre, Joël. Jadis, dans les manuels d'astronomie, tout était simple. On avait les petits objets du système solaire étaient divisés en deux catégories. Les astéroïdes, qui étaient de nature rocheuse, et les comètes de nature glaciaire. Aujourd'hui, nos connaissances montrent que c'est loin d'être aussi simple. Une foule d'objets intermédiaires entre les astéroïdes et les comètes existent. Même des objets comme l'astéroïde numéro 1, Cérès, pourtant essentiellement rocheux, montre une légère activité cométaire. Enfin, la découverte de la comète Bernardinelli-Bernstein confirme que dans le nuage de Oort existent des objets glaciaires de grande taille. Mais quelle est la limite supérieure ? Nous l'ignorons encore.
Et le temps passe vite, Bernard. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir, Bernard. Et à bientôt pour un autre Juste Ciel avec vous, bien sûr.
Au revoir, Joël.